C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On va parler de transport immédiatement. Une histoire assez rocambolesque qui se déroule à Lanoraie. Le maire de Lanoraie, M. Gérard Jean, est tanné d'attendre après le ministère des Transports du Québec. Il a décidé lui-même d'installer, après plusieurs années à le demander, un panneau stop et aussi des lignes jaunes pour une traverse à piétons. Il est au bout du fil. Monsieur Jean, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé, ça va bien?
Oui, ben vous, je pense que vous êtes un peu de mauvaise humeur là, contre le ministère des Transports. Expliquez-nous pourquoi.
Ben disons qu'on n'a pas vraiment de collaboration du ministère des Transports. Moi, je veux dire, toute l'histoire par rapport à cet arrêt-là, particulièrement à cette intersection-là, c'est-à-dire, a commencé, en 2015, on avait fait une demande de panneau d'arrêt. Parce qu'il y a beaucoup de circulation de piétons qui sont là, puis en plus, c'est l'entrée dans le milieu urbain où est-ce qu'on a la pharmacie et l'épicerie du village. Donc, on a fait une demande en 2015 qui, à fin de compte, ils ne sont pas revenus ou ça a été refusé parce qu'il y a eu tellement de refus, puis des fois, ils ne sont pas revenus. On a répété la demande en 2000, moi, j'ai rencontré le ministère des Transports en 2018. J'ai rencontré monsieur Thibault, qui est directeur régional. Je l'ai rencontré aussi le 3 juillet 2019. Le 17 mars 2021, on a eu une rencontre par vidéoconférence. Et puis, en plus de ça, c'est que en décembre 2020, c'est-à-dire en 2020, en mois d'avril, on a adopté une nouvelle résolution demandant encore une traverse de piétons et des arrêts.
Monsieur Georges, je vous arrête une demi-seconde. Oui. Expliquez aux gens qui connaissent pas Lanoraie, là, où vous voulez installer cet arrêt-stop avec passage à piétons et pourquoi.
D'accord. Lorsqu'on sort à Lanoraie, on parle d'autoroute, on sort à la sortie 130. Et puis, nous autres, le village, le centre du village, est à peu près à 4 kilomètres là, de la sortie 130. Quand on arrive, on a la caserne de pompiers. Et puis, à peu près, là, peut-être 500 mètres passé à la caserne de pompiers. Mais là, on a un nouveau développement qui est en arrière. Puis aussi, là, on a la pharmacie qui est face au parc, au terrain de balle, terrain de soccer. On a le chose pour les roulis roulants là, pour les jeunes. On a aussi l'école qui est à côté. Puis il y a l'épicerie du village qui est le marché Richelieu, qui est le marché Laurando, qui c'est tout de suite en traversant ça. Puis nous, dans ce parc-là, on a un chemin asphalté pour que les citoyens qui viennent du milieu résidentiel du côté Est puissent accéder à la pharmacie et à l'épicerie, ainsi que l'autre côté. Puis autant ceux qui viennent du côté Ouest qui peuvent accéder au parc et puis aux installations sportives.
Si je comprends bien, s'il n'y a pas d'arrêt stop qui est là, ben ça apaise pas la circulation puis il y a beaucoup de piétons, c'est ça?
Absolument, puis surtout qu'on sort d'une zone de 70, parce que sur le chemin Joliette, il faut dire que la vitesse est de 90 km/h. Okay. Ça aussi, ça fait des années qu'on lui demande de mettre ça à 70, et il refuse obstinément à mettre ça à 70.
Parfait, puis samedi, vous êtes allé mettre un arrêt-stop, puis vous avez vous-même peint des lignes blanches pour les piétons. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Ben, écoutez, après, ce qui s'est passé, c'est que le temps que j'étais en train de faire ça, il est arrivé un surveillant, la surveillance routière là, du MTQ, qui, là, le monsieur est venu me demander, il dit, je vais être obligé de vous demander de défaire ça. Ben, j'ai dit, je m'excuse, mais je dois vous répondre que moi, je vais être obligé de vous répondre que je ne le défrai pas et je vais même continuer. Et puis, à faire mes lignes, ainsi de suite, ça fait trop longtemps qu'on le demande au MTQ. Puis, surtout que moi, j'ai envoyé une lettre au chef de division à Joliette le 8 septembre, lui mentionnant, et puis j'ai pas fait ça à cachette, là. Le 8 septembre, j'ai écrit, j'ai dit, je vous écris aujourd'hui suite à notre rencontre du 17 mars, parce qu'il était là, lui. J'ai dit, considérant que le dossier traîne depuis 2015, et que je suis redevable à mes citoyens en ce qui concerne particulièrement leur sécurité, je me vois dans l'obligation de vous informer que si cette traverse n'a pas été mise en place ou autorisée au 23 septembre, je m'occuperai personnellement de l'instaurer vendredi le 24 septembre au matin. Je suis désolé de cette tournure des événements, mais je souhaite que vous comprendrez que la pression citoyenne sur moi et sur mes collègues du conseil municipal est de plus en plus forte. Je n'attendrai donc pas que l'irréparable se produise avant d'agir.
Fait que là, vous êtes arrivé là avec votre rouleau à peinture, vous avez commencé à tracer des lignes sur l'asphalte.
Absolument. J'avais fait faire un patron là avec les normes qui sont de 8 pieds, je pense, par 16 ou 18 pouces là pour chaque ligne. Puis il faut que ce soit distancé de temps. Je veux dire, j'ai tout fait ça dans les règles de l'art là. Puis en passant, les lignes sont blanches. Pourquoi elles sont blanches? C'est que selon la signalisation routière, lorsque c'est protégé par des arrêts obligatoires, les lignes se doivent d'être blanches. Okay. S'il n'y a pas d'arrêt, il faut qu'ils soient jaunes.
OK. Là... Vous avez été patient de toute évidence, là. Qu'est-ce qui s'est passé après, M. le maire?
Ben, il s'est passé. Écoutez, tant que j'étais, on a fait ça. Là, la police, la Sûreté du Québec est venue. Bon, c'est un agent qui me connaît, évidemment. Là, ça fait quand même 8 ans que je suis maire ici. Et puis, qui m'a dit, écoutez, je dois vous informer que, attendez-vous à ce qu'on donne des contraventions. J'ai dit, je ne m'attends pas à ça du tout. Je sais très bien qu'on ne pourra pas donner une contravention à un arrêt obligatoire qui vient d'être installé. Mais j'avais pas le choix que de procéder de cette façon-là pour arriver à sensibiliser le ministère des Transports.
Pourquoi le ministère des Transports veut pas installer un stop?
Écoutez, ils nous disent que là, ça prend des études d'ingénieurs parce que là, la circulation ne le justifie pas. Puis pourtant, je pense qu'on pouvait voir même dans le reportage de TVA comment est-ce qu'il y a de circulation. Écoutez, il y a du monde qui bosse là, c'est incroyable. À un moment donné, j'étais sur le coin, là, il y a une policière qui a été obligée d'arrêter le trafic parce qu'il y a des gens qui essayaient de traverser. Je me rappelle plus quelle heure qu'il était, là, mais ils essayaient de traverser puis ils réussissaient pas à trouver un trou pour traverser. Là. Puis en plus, on rentre dans une zone scolaire. Comme je vous dis, ça vient d'une zone de 70, on tombe à 50. Fait que souvent, nous, on a un panneau afficheur là, juste à côté de l'épicerie. Et puis souvent, les gens rentrent dans la vitesse environ de 75-80 km/h. C'est pas rare. Devant l'épicerie, qui est devant l'école, puis on a une traverse de piétons qui est pour l'école, là, un peu plus loin que l'épicerie. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de ralentir le trafic. Moi, ce que j'explique au ministère des transports, c'est que, écoutez, avec un arrêt obligatoire, ça fait prendre conscience aux gens qu'on rentre en milieu urbain et puis qu'il y a plus de densité.
Ben, le message est lancé, M. le maire. Je trouve ça original ce que vous avez fait. Puis écoutez, si vous aviez commencé à parler au MTQ il y a juste 3 mois, je vous aurais peut-être dit que vous avez été impatient, mais là, ça fait plus de 5 ans que vous leur parlez, vous leur demandez. Je pense que vous avez été assez patient.
Puis ça, on parle pas des autres dossiers qui traînent depuis 2012 et moins.
Merci beaucoup, M. le maire. Bonne chance avec ça.
Merci, M. Lagacé. Bonjour, bonne journée.
Salut, c'était Gérard Jean, maire de Lanoraie. Ben, vous l'avez entendu, il a pris son rouleau à peinture après 5 ans à attendre et il a fait des lignes blanches indiquant une nouvelle traverse à piétons improvisée. Et il a installé lui-même un arrêt stop. Le ministère a tout enlevé ça. On espère que ça va être repris dans la revue de presse du ministère. On va faire des appels pour savoir.
Il a bien fait.
Il a bien fait.
Il y a des maudites limites à un moment donné.
Puis tu sais, la limite est de 70, puis MC, ça tu le sais, là.
Ben oui.
Les gens roulent un peu plus vite, ils arrivent dans le village, pas tout le monde qui ralentit.
Moi, je vais mettre de l'essence là, tout le monde sort de l'autoroute, tout le monde pense qu'ils sont encore sur l'autoroute.
C'est ça, exact.
Fait qu'il a bien fait.
Bon, on l'a vu, la pandémie depuis 18 mois a accentué, si on veut, là, des failles dans nos systèmes. Ce qui marchait pas à l'école marchait encore moins bien. Ce qui marchait pas dans le système de santé fonctionnait encore moins bien. Et ces failles-là qui ont été agrandies, ben on peut dire peut-être la même chose des individus. La santé mentale des Canadiens en a pris un coup avec la pandémie. Et là, je vais vous présenter un témoignage. C'est celui de Marie-Hélène. Son mari est alcoolique. Et c'est un alcoolique fonctionnel. Ben, la pandémie, le stress de la pandémie a aggravé son problème d'alcool. Maintenant, c'est hors de contrôle. Et si j'ai choisi de la mettre en onde aujourd'hui, c'est pour qu'on l'écoute. Parce que vous le savez, le système nous dit toujours la même chose. Levez la main, vous allez avoir de l'aide. L'alcoolisme, c'est un problème qui s'accompagne parfois d'autres problématiques de santé mentale. Ben, des fois, quand on lève la main, moi je le dénonce depuis plusieurs années, c'est pas vrai qu'on a vraiment de l'aide. Ça dépend d'où on se trouve, ça dépend de notre profil socio-démographique, socio-économique, ça dépend du filet de sécurité qu'on a autour de nous et du nombre de personnes qui sont prêtes à nous aider. On accueille tout de suite Marie-Hélène. Salut Marie-Hélène!
Bonjour.
Marie-Hélène, j'ai lu votre statut Facebook qui m'est parvenu et vous expliquez là que votre vous avez 35 ans, vous avez deux enfants et 11 et 9 ans. Le père, vous êtes avec lui, fait longtemps que vous êtes avec lui. Vous dites qu'il a toujours aimé faire la fête et il était ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie?
Mais écoutez, c'est ça. Mon mari, ça a été quelqu'un, un peu comme beaucoup de Québécois en fait, on aimait prendre un verre de vin à chaque jour le soir en soupant. Puis la pandémie est arrivée, mon mari était, il travaille à la SAQ en fait, donc les magasins sont restés ouverts pendant la pandémie. Les gens étaient très stressés. Les gens, ses employés, son employeur, je ne mets pas en doute là, rien par rapport à la SAQ, mais il y a eu vraiment de l'intimidation qui a été faite envers mon mari de certaines personnes qui l'ont mené à une dépression. Les mesures sanitaires étaient très strictes. Il y avait des employés qui étaient pas confortables, balançaient la balle à mon mari. Puis mon mari faisait de son mieux pour gérer la situation, mais il est tombé.
Quand vous dites qu'il est tombé, c'est que ce problème d'alcool-là, qui n'était pas dysfonctionnel, ben il est devenu dysfonctionnel.
Exactement. C'est qu'il y avait tellement d'angoisse que mon mari s'est mis à boire du matin avant d'aller travailler pour apaiser son angoisse. Puis après ça, il pouvait boire quand il revenait de travailler. Là, après ça, c'était 12 bières, une bouteille de vin, puis du fort parce qu'il n'était pas capable de contrôler son angoisse. Puis, une journée, il m'a appelé, il me dit, il était pas capable de rentrer au travail, il me dit, viens à la maison, ça ne va plus. Puis c'est là que ça a déboulé complètement.
Quand vous dites que ça a déboulé complètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous êtes arrivée?
Quand je suis arrivée, c'était la semaine de relâche. Moi, j'étais à l'extérieur, je travaillais pour mon bureau. Puis je suis arrivée, j'ai trouvé de l'alcool partout. J'ai trouvé de la vaisselle partout. J'ai trouvé mes deux enfants qui n'avaient pas mangé de la journée. J'ai trouvé mon mari sur le sofa, complètement ivre. Donc, c'était un portrait d'horreur pour moi de constater ça parce que j'avais aucune idée qu'il buvait le matin et qu'il buvait à ce point-là.
OK. Là, vous avez cogné à certaines portes pour avoir des services, pour avoir de l'aide, pour sauver votre mari. Racontez-nous les démarches.
Écoutez, c'est comme vous dites, j'ai essayé de lever la main à plusieurs endroits, mais le processus est brisé. Par exemple, mon mari a fait une cure de désintoxication à la fin janvier jusqu'à février. Cette cure-là, c'est celle qui a été recommandée par son programme d'aide aux employés. Il l'a suivi, il l'a fait, mais cette cure-là ne l'a pas rejoint. Donc, quand il est sorti sobre, mais il n'est pas sorti prêt à affronter le retour à sa vie quotidienne. Donc, aussitôt qu'on l'a remis dans une situation de stress, donc son retour au travail, il a rechuté. Quand il a rechuté, sa rechute, ça l'a vraiment empiré. Là, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait directement à la SAQ, il s'achetait de la vodka, consommait de la vodka jour et nuit. Il était déconnecté mentalement. J'appelais la police parce que il faisait tout le temps des menaces de suicide. Et il s'est déjà ouvert le bras avec un couteau. Il a déjà avalé une bouteille d'Ativan avec une bouteille de vodka. Moi, j'appelle la police parce que sa vie est en danger. La police l'amène à l'hôpital. L'hôpital le prenne 24 heures, l'amène en psychiatrie, l'évalue. Monsieur n'est pas un colour. Mon mari n'est pas un colour. Donc, après 24 heures...
Ça, c'est ce qu'on vous dit qu'il n'est pas un colour.
Exactement.
Ça me semble assez lourd quand même, le Marie-Hélène.
Pour les proches, c'est extrêmement lourd. Je vous le dis, là, moi, depuis janvier, je ne dors plus, je ne mange plus. Je suis sur le qui-vive non-stop avec mes enfants. Mais c'est ce qu'on me dit. C'est pas un colour, donc on me le renvoie, me disant c'est à lui de se responsabiliser, c'est à lui d'arrêter de boire et c'est à lui de faire le cheminement. Mais il est malade. L'alcoolisme est reconnu comme étant une maladie.
Qu'est-ce que vous auriez espéré comme réponse du système de santé?
Moi, j'aimerais qu'on me prenne en charge. Je ne suis pas une experte. Je ne suis pas une experte en alcoolisme, en santé mentale. Je ne sais pas comment aider mon mari. J'aimerais qu'on me dise, voici vos chemins, voici les intervenants qui existent, voici quoi faire. Mais là, ce qu'on me fait, c'est qu'on me fait parler à la police, on me fait parler à l'hôpital, on me fait parler au centre de crise, on me fait parler aux organismes, mais chacun de ces points-là se passe la patate chaude entre eux. C'est terrible parce que moi, j'appelle, par exemple, en situation de crise, j'appelle l'organisme qui est supposément va accueillir mon mari. On me dit, il est intoxiqué, on ne peut pas l'accueillir. Appelez la police. J'appelle la police me dit, OK, c'est correct, on l'embarque, on l'amène à l'hôpital. La police, par contre, ils ont les mains liées et ils ont des cas comme ça, là, à tous les jours. Ça l'a augmenté avec la pandémie. C'est incroyable.
Votre mari travaille à la Société des alcools du Québec dans une succursale.
Oui.
Est-ce que c'est bon pour lui de travailler là?
Absolument pas. Ça rechute à la suite, après sa première cure, c'est qu'il est retourné trop vite à la SAQ. C'est un bar ouvert, tu sais. C'est honnêtement pas bon, cet environnement-là, pour lui. Mm-hmm. C'est très néfaste.
Mais en même temps, il faut qu'il gagne sa croûte, puis c'est là qu'il travaille.
Exactement.
C'est quoi la solution au chapitre du travail?
Bien, il n'y en a pas. Puis en plus, les assurances ont décidé qu'il n'était plus assurable, donc il n'y a plus de revenus en ce moment. Parce que pour eux, il ne fait pas d'efforts pour se guérir. Il prend pas sa maladie à cœur. Il devrait être sans cesse en cure pour essayer de se contrôler. Mais c'est pas vrai que c'est facile d'entrer en cure comme ça. Il n'y a pas des places à toutes les semaines qui se libèrent.
OK, vous avez tenté de chercher. Là, il a fait une cure. Vous cherchez un endroit pour une deuxième, c'est ça?
Et là, j'en ai trouvé une deuxième. C'est au privé, par contre. C'est extrêmement cher. Ça va nous coûter près de 29 000 $ pour que mon mari puisse avoir une cure adaptée avec sa personnalité. Donc, avec...
C'est 29 000 $ une cure au privé?
29 000 $ c'est 6 semaines, 29 000 $ mais il y a des psychiatres, des infirmiers, des psychos, neuropsies, c'est une bonne place, là.
Vous avez interpellé dans votre lettre sur Facebook, Marie-Hélène, le premier ministre. J'imagine que quand vous l'interpellez comme ça, François Legault, c'est un peu un geste de désespoir aussi, là.
C'est un gros geste de désespoir parce que ça fait 9 mois que je me bats. Ça fait 9 mois que on ne veut pas brimer les droits et la liberté de mon mari. Donc, chaque fois qu'il y a un incident, on me dit que c'est à moi de sortir de la maison avec mes enfants. C'est pas à monsieur, c'est à moi de faire toutes les démarches. On me laisse le fardeau à moi, alors que j'ai mon emploi à m'occuper, j'ai mes enfants à gérer, j'ai toutes les activités, toutes les tâches ménagères, et c'est moi qui dois sortir de la maison. Ma liberté, elle est complètement brimée, mais on s'en préoccupe pas. On se préoccupe de la liberté de mon mari, mais pas de la mienne et pas de celle de mes enfants.
Je reviens aux 29 000 $ parce que j'imagine, là, votre mari travaille plus, vous travaillez. C'est une somme colossale pour à peu près n'importe qui, là.
Oui, absolument, il va falloir que j'emprunte pour pouvoir la payer, définitivement. Mais la santé de mon mari, elle n'a pas de prix, puis ma famille, elle n'a pas de prix.
Comment vous expliquez ça aux enfants?
Je suis assez transparente, je leur ai expliqué, en fait, parce que je veux pas qu'ils vivent ça, puis je veux qu'ils les sensibiliser que l'alcool, ça peut être mal quand c'est consommé en grande quantité. Donc, ils savent que papa, il est malade parce qu'il boit trop de bière, c'est ce qu'on dit, puis ils savent que on essaye de guérir papa, mais que c'est un long chemin de bataille, puis qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain. Ma fille, cette semaine, elle a pleuré tous les jours parce que son papa, il était en grosse rechute, donc il n'était pas à la maison. Elle était inconsolable. Elle a 11 ans et elle comprend des choses plus que quand elle était plus jeune. Mon fils a 9 ans, il comprend, mais tu sais, papa, il n'est pas là, tu sais, c'est plate, mais il n'est pas là. Mais ma fille, elle est extrêmement affectée.
Hey, Marie-Hélène, j'ai mal à la tête juste à vous écouter. Je n'ose même pas imaginer c'est quoi quand on est plongé là-dedans. Bonne chance avec tout ça.
Gros merci.
Ah, c'est moi qui vous remercie. Bonne chance avec ça.
Merci, au revoir.
Écoutez, on a choisi de mettre Marie-Hélène en onde pour une raison bien, bien simple. Moi, je suis tanné d'entendre « Lève la main, tu vas avoir de l'aide. » C'est pas toujours vrai. C'est parfois vrai, c'est peut-être même souvent vrai, mais c'est pas vrai pour tout le monde. On le voit ici, les embûches là pour obtenir de l'aide, parce que c'est pas juste un problème d'alcool, c'est un problème avec d'autres comorbidités, comme on dit. Là. Il y a des problèmes de santé mentale là-dedans, vous l'avez entendu. Une femme débrouillarde qui cogne aux portes, de l'aide dans son cas, il n'y en a pas tant que ça.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Bon, il y a une semaine, François Legault et Christian Dubé ont annoncé des offres de primes aux infirmières de 12 000 à 18 000 $ selon les situations, selon les régions aussi, pour inciter le plus d'infirmières possible à revenir à temps plein dans le réseau public. On sait qu'il y a des besoins criants un peu partout et pas juste dans la région de Montréal. Est-ce que les infirmières se précipitent sur les bonus une semaine environ? Plus tard, on en parle avec Nathalie Sitaké-Doucet. Elle est présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Nathalie Sitaké-Doucet, bonjour.
Bonjour, Patrick.
C'est quoi les échos que vous avez?
Les échos à date ne sont pas très positifs.
C'est très compréhensible. Donc, les primes, nous, à laquelle, évidemment, on accueille cette annonce-là. Sauf que c'est un peu frustrant quand ça fait des années et des années qu'on martèle principalement sur le clou du TSO, donc le temps supplémentaire obligatoire comme étant la cause principale de l'exode des infirmières. Et qui a essentiellement rien de fait ou de proposé à ce niveau-là.
OK. Mais on va se concentrer sur les primes pour l'instant, mm-hmm. Nathalie, et sur les, le succès ou le non-succès de ça. Ce que vous entendez, c'est que les infirmières qui sont sorties du réseau, qui n'ont pas de poste à temps plein, qui sont au privé, elles répondent mm-hmm. pas présentement, là.
Ça semble pas être le cas, non. Pas du tout.
Est-ce que vous avez pu parler des infirmières qui ont été approchées?
Qui ont été approchées directement, là?
Oui, parce qu'on sait qu'il y a des appels qui se font directement, là.
Ben, c'est une bonne chose d'appeler les gens directement, là. Ça, c'est clair. Mais je veux dire, je connais pas aucune infirmière qui a même songé revenir, là, suite à l'annonce des primes. Parce que c'est pas suffisant. C'est pas pour l'argent qu'elles ont quitté. Donc, c'est pas uniquement l'argent qui va les faire revenir. Okay. Donc, c'est bon, c'est excellent pour les infirmières qui sont présentement dans le réseau. Donc, ça va peut-être contribuer à la rétention des infirmières qu'on a déjà. Oui. Mais ça sera pas nécessaire. C'est pas ça la solution pour ramener les infirmières dans le réseau.
Nathalie, vous l'avez déjà expliqué à notre micro, là, mais je pense qu'il faut répéter et répéter. Principalement, là, qu'est-ce qui fait que les infirmières ont déserté le système public?
Ben, je continue à le répéter jusqu'au temps que ce soit réglé, mais c'est le temps supplémentaire obligatoire. Donc, on a des centaines, voire des milliers d'infirmières qui ont quitté dans les dernières années parce qu'elles ne sont plus capables d'endurer l'imposition du temps supplémentaire obligatoire. Donc ça veut dire on rentre travailler, mais on n'a aucune idée quand on va avoir le droit de quitter le travail. Donc j'ai des infirmières qui me disent à tous les soirs, il faut que je me batte pour avoir le droit de retourner chez nous. Ça, c'est invivable à long terme. Et il y a des choses, même s'il y a un manque criant de personnel dans le réseau, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place dès maintenant pour assurer aux infirmières qui sont présentes et celles qui ont quitté, qu'il y a des choses qui sont mises en place, qui vont être effectuées pour essayer de diminuer ou minimalement d'encadrer l'usage du temps supplémentaire obligatoire. Il y a des milieux qui l'ont fait, il y a beaucoup d'initiatives locales qui gagneraient à être étudiées et à être élargies à l'ensemble du réseau. Mais c'est vraiment le temps supplémentaire obligatoire, c'est le nerf de la guerre et ce n'est pas une fatalité et on n'a pas à attendre que les infirmières reviennent pour commencer à s'y attaquer. Il faut le faire dès maintenant, sinon on ne réussira jamais à rapatrier les infirmières du privé vers le public.
J'ai parlé des infirmières la semaine passée, là, et c'était pas la première fois que je faisais des reportages là-dessus, là, et qui m'ont expliqué, il y a cette perception, je veux vous entendre là-dessus, Nathalie Staquet-Doucet, que dans le réseau anglophone, au Jewish, au CUSUM, etc., il y a moins de temps supplémentaire obligatoire que dans le réseau francophone. D'abord, est-ce que c'est la perception, les échos que vous en avez aussi?
Oui, absolument. Je veux dire, moi, dans le réseau, les seules fois que j'ai eu à faire du temps supplémentaire obligatoire, c'était dans le réseau francophone et non dans le réseau anglophone. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'absence, qu'ils n'ont pas des enjeux de pénurie eux aussi. La pandémie a exacerbé la pénurie pour tout le monde et on commence à en voir là dans le réseau anglophone aussi. Okay. Encore une fois, c'est pas simplement une question de réseau anglophone ou francophone, c'est aussi les milieux. Donc le TSO, c'est vraiment un problème principalement qu'on voit dans les hôpitaux et souvent aussi dans les CHSLD. Donc évidemment dans des cliniques ou des choses comme ça, c'est moins présent.
Ce qu'on me dit aussi, Nathalie, c'est que au chapitre de la gestion, là, c'est plus facile, bien souvent, pas tout le temps, d'avoir des infirmières qui font des quarts de travail de 12 heures. Et ça, c'est le cas beaucoup chez les anglophones, beaucoup plus que chez les francophones. Est-ce que vous avez entendu ça?
Oui, absolument. Mais c'est aussi le cas, je vous dirais, c'est surtout plus commun dans les unités de soins aigus. Donc, surtout aux soins intensifs, dans certaines salles d'urgence, c'est effectivement le cas. Mais il y a aussi des hôpitaux francophones qui commencent à adopter ça. Sauf que le problème avec ça, c'est que souvent, une infirmière qui souhaite commencer à faire des quarts de 12 heures doit trouver une autre infirmière qui va faire l'autre 12 heures. Donc, on gagnerait à organiser ça au niveau de la gestion, là, pas que les infirmières, ce soit elles qui soient pognées à faire les démarches.
Évidemment, ça, c'est un non-sens. Mais au simple chapitre de l'organisation du travail, est-ce que gérer deux quarts de travail de 12 heures, c'est plus facile et plus efficace que de gérer trois quarts de 8 heures?
Ben, selon les données probantes, là, je veux dire, moi, je fais de la recherche aussi, ça semble être effectivement le cas. Donc, évidemment, on élimine un shift au complet quand on fait deux quarts de travail au lieu de trois. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire de tout mettre à des 12 heures. Donc, par exemple, en Ontario, ils ont un 4 journées on, 5 journées off. Donc, ils font 3 12 heures puis 1 8 heures. Puis ça, c'est considéré temps plein. Okay. Donc, ça, c'est souvent un genre d'horaire qui est très, très apprécié par les infirmières parce que ça permet une meilleure conciliation travail-famille. Et donc, c'est assez populaire. Donc, oui, définitivement, les quarts de 12 heures ou une combinaison de quarts de 12 heures et de quarts de 8 heures qui permettrait d'enlever une ou deux journées à l'horaire sur un temps plein, ça pourrait attirer effectivement beaucoup d'infirmières.
On me dit que les syndicats sont vraiment pas chauds à l'idée de passer à des quarts de 12 heures.
Ça, faudrait leur demander à eux. je veux dire, évidemment, je pense que c'est important de consulter les infirmières sur le terrain, mais si on voit qu'il y a des unités où les infirmières semblent être particulièrement intéressées au quart de 12 heures, je vois pas pourquoi on passerait pas à des quarts de 12 heures ou une combinaison de, c'est peut-être des quarts de 12 heures la semaine, des quarts de 8 heures la fin de semaine, mais c'est possible à faire, c'est pas un si gros casse-tête que ça, là.
OK, Nathalie,
ça se fait partout dans le monde.
OK, je reçois un message là qui est une question, on va mettre ça de type l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier? Parce qu'on s'entend que dans l'absolu, on n'en veut plus de temps supplémentaire obligatoire, mais on sait qu'il y a une pénurie présentement. En fait, comme vous dites, il y a une hémorragie. Les filles ont quitté le métier.
Absolument.
Et il y a un auditeur qui me demande, comment veux-tu enlever le TSO s'il y a personne pour travailler? Dans l'immédiat, c'est dur de le supprimer, le TSO.
Dans l'immédiat, de le supprimer complètement, je suis parfaitement d'accord. C'est pas ça que je dis. Moi, je dis ce qui est important, c'est de mettre des mesures en place pour encadrer le TSO. Donc là, je veux dire, là, en ce moment, c'est le Far West. Là. N'importe qui peut imposer du TSO quand qu'il veut, sans aucune conséquence. Il n'y a aucun processus qui exige que le gestionnaire qui impose le TSO prouve qu'il a fait toutes les démarches nécessaires pour éviter ça. Donc, moi, tout ce que je demande, c'est que la responsabilité du TSO soit partagée, que ce soit pas juste sur le dos des infirmières sur le plancher, mais que les gestionnaires qui l'imposent aient aussi des comptes à rendre sur leur utilisation du temps supplémentaire obligatoire. Ça, me semble, c'est pas trop demandé. C'est responsabiliser le réseau et c'est quelque chose qu'on s'obstine à ne pas faire dans le réseau depuis 25 ans et ça me dépasse pourquoi qu'on n'accepte pas d'assumer ses responsabilités, de dire c'est important que les gestionnaires se posent la question, moi si j'impose un temps supplémentaire obligatoire à cette infirmière aujourd'hui, ce soir, est-ce qu'elle va être encore dans mon organisation 3 mois plus tard? Donc il faut absolument se doter d'un processus, d'un encadrement du temps supplémentaire obligatoire, pas juste pour le contrôler, le comptabiliser, mais aussi pour donner un certain espoir aux infirmières sur le terrain qu'il y a quelque chose qui commence à être fait pour le régler. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Et il y a beaucoup de mesures relativement simples qui pourraient nous aider à au moins se mettre sur la bonne voie. Et on veut même pas prendre la porte, tu sais, s'engager sur ce chemin-là.
Merci de nous avoir parlé. On va continuer à taper sur ce clou-là, Nathalie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne
Salut.
Journée.
C'était Nathalie Staquet-Doucet de l'Association des infirmières et infirmiers du Québec.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Vous le savez, aujourd'hui, pour la première fois au Canada, le 30 septembre, pardon, c'est un jour férié au fédéral qui est consacré aux victimes des pensionnats autochtones. C'est la Journée nationale de vérité et réconciliation, une façon d'honorer la mémoire des enfants disparus, de rendre hommage aux survivants des pensionnats autochtones. On va en parler immédiatement avec Stanley Volant. Vous le connaissez, Inou de Pessamite, le premier chirurgien issu des Premières Nations au Québec, actuellement chirurgien à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Docteur Volant, bonjour.
Goyer, monsieur Lagacé.
Merci de vous joindre à nous. Avant de commencer l'entrevue, Catherine Beauchamp, tantôt à la chronique culturelle, nous parlait d'un documentaire qui s'intitule « Elisapi face à la musique » et vous avez témoigné dans ce documentaire-là. C'est présenté ce soir à RTV à 19h. On va en écouter un extrait.
Ma mère a été abusée au pensionnat, a été abusée dans la communauté, puis boire, ça a été sa guérison. Je traînais ça, c'est comme dans un sac à dos. Et en 2007, ça a brisé. J'ai dit, j'ai tellement mal depuis des semaines. J'étais allé dans mon sous-sol, j'ai cherché ma carabine, mon 30-06. Je l'ai chargé.
Ta carabine de chasse.
Ta carabine de chasse. J'ai écrit avec mon BlackBerry mon farewell. Et là, j'étais prêt. Et juste avant de tirer, c'était mon plan, c'était send, trigger. Là, juste avant de faire ça, j'ai regardé la photo. Il y avait la photo de mes enfants. J'ai dit, il me semble qu'il manque un paragraphe pour expliquer à mes enfants pourquoi j'ai commis un geste aussi stupide.
Docteur Volant, vous l'avez dit, je traînais ça dans mon sac à dos. La oui. douleur de votre mère, le fait qu'elle se soit guérie, entre guillemets, en prenant de l'alcool parce qu'elle avait été dans les pensionnats. Expliquez aux gens qui nous écoutent à quel point l'horreur des pensionnats, c'est une cicatrice transgénérationnelle.
C'est, ça fait longtemps, les pensionnats, puis les gens qui ont été aux pensionnats, comme ma mère, ou qui ont été, on essaie de sortir l'indien d'eux, de leur dire que leur savoir était inutile, qu'il fallait qu'ils se civilisent, et qu'il fallait qu'ils se blanchissent pour devenir quelqu'un. On les abusait sexuellement, on les abusait physiquement, mentalement, et ma mère a traîné ça comme un boulet. Et souvent, l'alcool, la drogue a servi de médicament à ces gens-là. Et des gens qui ont été abusés durant leur enfance, souvent ne feront pas des bons parents. Ça se peut qu'eux autres aussi abusent mm-hmm. de leurs enfants et ça se fait de transgénérationnel. Donc, c'est un lourd passé. Puis, à un moment donné, il faut briser le cercle vicieux. Moi, j'ai décidé de le briser, de ne pas traîner cette roche-là dans mon pack-sac, la roche que ma mère a traînée, de l'abandonner sur le chemin de Compostelle. Mais ça a été un long processus. Puis encore aujourd'hui, je dois me parler de temps en temps parce que on dirait que je veux reprendre encore, je veux remettre encore ces roches-là dans mon dos qui me pèsent lourd. Et aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, ça m'apaise en disant que le futur semble meilleur que le passé.
C'est une journée symbolique parce que c'est la première journée. Mais au-delà du symbole, vous venez de le dire, vous, ça vous apaise. Est-ce que les symboles peuvent avoir un effet dans le réel des personnes autochtones?
Le symbolisme est très important dans la culture autochtone, la quête de la vision. On est des gens qui sont très dans le symbolique, dans le rêve. Ça fait partie, c'est ancré très, très profondément dans notre culture. Et ça nous aide beaucoup, ces symboles-là. Et aujourd'hui, il y avait un beau symbole. J'étais au pied de la statue de Sir John McDonald, qui était oui. des Boulogne l'année passée, oui. qui était le fondateur des pensionnats, en passant, et qui a fait pendre l'Uriel et qui a détruit plusieurs nations autochtones dans l'Ouest. Donc, il y avait, pendant qu'on parlait des enfants disparus et tués, il a plu, il a fait froid. J'ai dit, ça commence mal, cette marche-là. Et lorsqu'on a entamé cette marche-là, le soleil est réapparu, il a commencé à faire chaud. C'était un symbole comme, oui, on pleure nos disparus, on pleure notre passé, mais aujourd'hui, il faut vivre le moment présent, se tendre la main, et le soleil nous montre le chemin d'un futur qui va être plus rayonnant, où on va pouvoir se parler à l'Octone et autochtone pour construire un avenir meilleur pour tous nos enfants, peu importe leur origine.
On s'entend, docteur Volant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à la réconciliation, mais il me semble qu'il y a quelque chose de positif dans le fait qu'on en parle. Ça fait maintenant les pensionnats, c'est au centre des conversations quand on parle des enjeux autochtones. Il me semble que c'était pas comme ça il y a 2, 3, 4, 5 ans.
Non, je pense qu'on en parle beaucoup plus, vous avez raison. Puis même, je peux vous dire qu'avant 2005, c'était un sujet qui était tabou dans ma communauté, c'était un sujet qui était tabou parmi les aînés. On n'en parlait pas. Et la commission réconciliation a rétabli la vérité et on s'est allégé d'un poids qui nous écrasait. Et aujourd'hui, d'en parler, c'est une thérapie. Et aussi, on appelle les gens du Québec, du Canada. On vous tend la main. On veut être des partenaires avec vous. On a des belles richesses à vous partager. Puis, je pense qu'ensemble, on peut bâtir un grand pays pour avoir un beau futur pour l'ensemble de nous tous.
Docteur Volant, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent puis qui disent, ouais, ben là, les pensionnats, là, c'est pas de ma faute, cette affaire-là. Qu'est-ce que vous diriez pour comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette réaction-là, qui se braquent, qui se disent, écoutez, pas ma faute personnellement. Pourquoi est-ce que je me soucierais de cet enjeu-là?
Bien, je pense que c'est une question de bon voisinage, de se respecter, parce que si on se connaît pas, les gens qui veulent pas reconnaître, je veux pas que les gens s'autoflagellent, que leurs ancêtres aient pu aider à commettre ces crimes-là vis-à-vis mon peuple, mais je pense de reconnaître le passé, de mieux le connaître, pour être capable de pouvoir se parler et comprendre les Autochtones, pourquoi qu'on ait des problématiques sociale dans nos sociaux, dans nos problèmes, dans nos communautés aussi importante. Reconnaître ce legs douloureux-là des pensionnats, je pense que ça aide à comprendre et à se parler et d'être capable d'entamer une discussion puis de pouvoir développer un partenariat.
Je peux pas m'empêcher de vous amener sur le terrain de l'actualité. Là, vous avez mentionné tantôt la statue de John A. McDonald qui a été déboulonnée et c'est là que la marche aujourd'hui a commencé à Montréal. Denis Coderre a dit aujourd'hui que ben, s'il n'en tenait qu'à lui, il la remettrait en place. Est-ce que c'est une bonne idée?
J'ai entendu parler que Denis Coderre voulait la remettre en place avec une plaque qui mentionnerait les choses négatives qu'il a fait pour les Premières Nations. Mais je dirais à Denis, Monsieur Coderre, ben pourquoi pas tu gardes-le dans l'hangar, ça va être bien plus simple, ça va coûter beaucoup moins cher. Et c'est comme si on élevait une statue d'Hitler en disant il a commis ces crimes-là. Je pense que personne n'accepterait ça. Pour nous, c'est l'instigateur d'un ethnocide, d'un génocide, et on veut pas revoir sa statue-là. Ça coûte très cher aux contribuables canadiens pour quelqu'un qui symbolise quelque chose de très, très négatif. Pourquoi pas mettre une statue de quelqu'un qui est plutôt qui a plutôt été quelqu'un qui a rallié les communautés autochtones et non autochtones ensemble? Ce serait mon avis à moi.
Deuxième thème d'actualité, puis le dernier après ça, je vous laisse aller. François Legault a dit aujourd'hui qu'il n'était pas question de faire comme le fédéral et d'avoir le 30 septembre comme journée fériée au Québec. Il dit que, bon, ça coûterait trop cher, la productivité de la main-d'œuvre en serait affectée. Quelle a été votre réaction?
Pourquoi que la Colombie-Britannique, le Manitoba le font? Je pense que la Colombie-Britannique est aussi productive que le Québec peut l'être. Et je pense que la Colombie-Britannique et le Manitoba ont tendu la main aux Premières Nations. D'autres provinces vont le faire probablement dans les prochaines années. Et j'aurais aimé que notre premier ministre nous tende cette main-là en disant on comprend. Puis peut-être c'est une bonne opportunité pour que cette journée-là puisse être une journée de rencontre où les Autochtones peuvent partager leur richesse et se connaître mieux. Le racisme commence par la méconnaissance de l'autre et de connaître l'autre, de tendre la main et de dire quoi. Quoi veut dire bonjour. C'est une première façon de décoloniser nos relations en disant je ne suis pas supérieur à toi, on est des égaux. Et entre égales, on va être capable de pouvoir bâtir quelque chose de solide pour nous, pour notre futur, pour nos enfants.
Toujours un plaisir de vous avoir à notre micro. Merci, docteur Volant.
Monsieur Lagacé.
Salut, bonne journée. C'était Stanley Volant, Innu de Pessamite, premier chirurgien issu des Premières Nations du Québec. Il est actuellement chirurgien à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. La protectrice du citoyen vient de déposer son rapport pour la période 2020-2021. On parle de 21 803 demandes traitées, 42 038 appels reçus. La protectrice Marie Rinfret est au bout du fil. Madame Rinfret, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, une autre grosse année à traquer les absurdités et les dénis de service, si je comprends bien.
Écoutez, ça fait partie de notre mission, hein, comme protectrice du citoyen. Notre institution doit veiller au respect des droits des personnes qui font affaire avec l'administration publique québécoise. Donc, bon an, mal an, on constate que les droits sont pas respectés, qu'il y a des préjudices et on demande que ces préjudices-là soient corrigés.
Quand ces préjudices-là surviennent, diriez-vous là que c'est le résultat d'une administration qui est pointilleuse ou ce sont généralement des erreurs de bonne foi?
Toutes ces réponses sont bonnes. Ça va être pointilleux, mais malgré ça, ce sont des erreurs de bonne foi. On n'est pas du tout dans chercher à ne pas rendre un service public. On est soit dans l'application très stricte d'une règle, soit qu'on interprète de manière très rigide l'accessibilité du service, ou encore on prend trop de temps pour répondre à la demande et là ben on devient face à un déni de droit parce que ça l'a pris beaucoup trop de temps pour obtenir la décision puis ben ma foi faut attendre un an de plus pour avoir accès au service.
En parcourant votre rapport, Mme Rinfret, là, je note qu'il y a souvent des manques de souplesse de la part des administrations. Si un cas n'est pas exactement et précisément à l'intérieur des petites cases bureaucratiques, ben là, on tombe dans le déni de service et ça prend la protectrice du citoyen pour faire entendre raison, là.
Oui, vous avez raison. Et c'est l'essentiel de mon message cette année parce qu'on a vécu une période extrêmement bouleversante au cours des derniers mois. On est encore dans ça. Et là-dessus, j'interpelle directement l'ensemble des services publics de démontrer de l'ouverture, de la souplesse, de l'écoute, donc de l'empathie à l'égard des personnes qui font appel à nous en fonction, non pas des critères qu'on a établis nous-mêmes dans nos procédures ou dans nos processus, mais en fonction de leurs besoins et de leurs conditions.
Racontez aux gens qui nous écoutent, Mme Rinfret, là, le cas à la Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, où on a refusé qu'une victime d'actes criminels puisse suivre sa thérapie au téléphone. C'est vraiment un beau cas de petite case bureaucratique.
Oui, vous avez raison. C'était une dame qui, elle-même, donc, avait été victime d'un acte criminel. C'est une personne qui était aussi lourdement handicapée, là, donc avec une maladie dégénérative. Et elle avait droit à de l'aide psychologique et son professionnel avait demandé que cette aide psychologique lui soit offerte par téléphone parce qu'elle avait énormément de difficultés à se déplacer. Alors, la demande a été transmise à la Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui a refusé sa demande pour deux raisons. D'abord, la première, comme vous le dites, il n'y avait pas de case pour offrir ces services-là par téléphone. Donc, on lui imposait de se déplacer et on ajoutait également que d'offrir ces services-là par téléphone, ça contrevenait à la confidentialité. Alors qu'on le sait, la confidentialité, elle appartient à la dame qui reçoit les services.
Je vous arrête une seconde, Mme Rinfret. C'est quoi la justification à la Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels pour invoquer la perte de confidentialité parce que la thérapie se fait au téléphone?
Ben il y en avait aucune parce que la perte de la confidentialité c'est pas à leur égard, c'est oui. La personne qui reçoit le service qui elle décide de recevoir ce service là par téléphone. Puis là on le sait là avec la pandémie, il y a eu de la télémédecine, donc il y avait aucune raison à cet égard là. On sait pas d'où c'est sorti là, mais à tout événement, ça a été un des motifs invoqués. À cet égard là, bon, la dame a fait appel à nous immédiatement là, on a communiqué avec la direction générale pour tenter d'y voir plus clair. Et à la suite de notre intervention, la Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels a accepté de payer pour les soins en psychothérapie, donc l'aide psychologique pour la dame. Bon, tout ça, malheureusement, là, ça l'a retardé le début de son aide, mais à tout le moins, là, elle a pu obtenir ce dont elle avait besoin.
Merci beaucoup. J'admire beaucoup votre travail. Je pense que c'est essentiel. Et j'admire aussi votre patience. Vous avez une patience que j'aurais pas face à la bêtise bureaucratique. Merci beaucoup, Marie Rinfret.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à Patrick Lagacé en accéléré sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un balado C23 produit par le 98.5. Un nouvel épisode chaque soir en semaine vers 19h30.